France Inter.fr.
La revue de presse avec vous, Frédéric Pommier. Bonjour.
Bonjour Hélène et bonjour à tous. On dit souvent que les gens mariés se souviennent toute leur vie du jour de leur mariage, même si la journée ne fut pas celle qu'on espérait. C'est le genre de choses qu'on n'oublie pas. On dit aussi que les parents se souviennent toute leur vie du jour de la naissance de leur premier enfant, et même du jour de la naissance de leur deuxième enfant, et du troisième, du quatrième, du cinquième et des suivants. C'est le genre de choses qu'on n'oublie pas. Souvent, on se souvient aussi du jour des résultats du bac et du jour où cette jolie fille ou ce joli garçon nous a proposé de l'accompagner au cinéma. Il y a des jours qu'on n'oublie pas et l'on peut sans trop se risquer se dire que Marine Le Pen n'oubliera jamais la journée du 3 mai 2016, le mercredi 3 mai 2017 d'ailleurs, jour de son débat face à Emmanuel Macron. Passionnante enquête dans M, le magazine du Monde, enquête d'Olivier Faye et Raphaël Baquet, qui reviennent en détail sur les coulisses de cette journée.
Le titre à la une de l'hebdomadaire, c'est « Le jour où Marine Le Pen s'est effondrée ».
Et tout commence le matin, une dizaine d'heures avant le débat. Tout commence chez elle, dans sa maison de la Selle-Saint-Cloud, où la candidate a fixé une dernière réunion avec son équipe de campagne. Mais quand son conseiller Bruno Bild débarque chez elle, donc vers 10h30 du matin, il la trouve en panique. « Bruno, Bruno » lance-t-elle. « Je ne vois plus rien de l'œil gauche ». Devant Marine Le Pen, un téléphone est branché sur le haut-parleur. À l'autre bout du fil, un ophtalmo qui tente de calmer sa patiente. Elle décrit les symptômes, des éclairs zébrés traversant le champ de vision, l'impression de voir flou et puis un violent mal de crâne. Le médecin ne met pas longtemps à diagnostiquer une migraine ophtalmique, douloureuse certes, mais sans gravité. Mais très problématique tout de même. Est-ce qu'on peut annuler le débat? Se demande le conseiller de la patronne du Front National. Impossible, lui répond l'un de ses collègues. Dès lors, est-ce qu'on peut le décaler? Non, on ne change rien, tranche finalement Marine Le Pen, à laquelle l'ophtalmologue a prescrit des remèdes pour la soulager. Mais ce spécialiste des yeux ne peut rien faire en revanche pour soigner les autres maux qui affectent la migraineuse. Il ne peut rien faire contre sa fatigue. Elle est totalement éreintée par ses semaines de campagne, courant les matinales en se levant aux aurores et multipliant les meetings en se couchant à pas d'heure. La nuit précédant le débat, Marine Le Pen n'avait dormi que 45 minutes. Et puis elle avait, semble-t-il, oublié aussi qu'il n'était pas inutile de se préparer pour l'émission du soir, qu'elle se prépare sérieusement. Et c'est cela que met en avant cette enquête du magazine, sa totale impréparation. Elle n'était pas du tout au point sur les questions économiques et en tout premier lieu sur la sortie de l'euro. Et alors que ses conseillers, notamment les frères Philippot, se succéderont toute la journée pour tenter de lui faire tenir des propos cohérents, elle n'arrivera pas à cacher ses lacunes le soir face à son adversaire. Débat catastrophique, duquel on n'a finalement retenu que ses gaffes quand elle mélange les dossiers. Débat calamiteux, dans lequel elle n'a su faire preuve que d'agressivité.
Et ce matin, c'est le vainqueur de ce débat du 3 mai qu'on retrouve à la une d'une partie des journaux.
Le vainqueur du débat du 3 mai 2017, le chef de l'État, qui hier a enchaîné les commémorations, défilés militaires en compagnie de Donald Trump, puis à Nice, la cérémonie d'hommage aux victimes de l'attentat de la promenade des Anglais, Macron présent sur tous les fronts. Titre ainsi la dépêche du Midi, qui évoque également un 14 juillet très politique. On imagine qu'il se souviendra de ce jour-là. Et l'on imagine également que le chef des armées s'en souviendra. Pierre de Villiers, comme le veut la tradition, a accompagné Emmanuel Macron lors de son arrivée sur les Champs-Élysées. Pierre de Villiers, tensé la veille par Emmanuel Macron pour s'être plaint de la baisse du budget de la défense. Silence dans les rangs, lui a dit en substance le président de la République. Une humiliation, estime Guillaume Tabar dans le Figaro. Il ne voit pas comment le général de Villiers pourrait faire autre chose aujourd'hui que de démissionner. Quant à Michel Bassy de la République des Pyrénées, il relève que cette affaire inspire deux réflexions. La première a trait à l'exercice de l'autorité. Le danger qui guette ceux qui en sont investis est de tomber dans l'autoritarisme. Est-ce irrespectueux de dire que ce danger menace Emmanuel Macron, questionne l'éditorialiste, avant de préciser sa deuxième réflexion, qui elle a trait à la communication présidentielle. Que Macron veuille la verrouiller peut se comprendre, écrit-il, mais la méfiance qu'il manifeste à l'égard des journalistes présente, cela dit, des inconvénients au simple plan de l'information à laquelle le peuple a droit.
C'est d'ailleurs le point de vue que défendent Isabelle Roberts et Raphaël Garrigos sur le site Les Jours.
D'après eux, à l'occasion de la visite du président américain, le chef de l'État a définitivement pris la main sur l'ensemble des médias français. Et notamment sur les chaînes télé d'information en continu, récit de la couverture de l'événement sur LCI, CNews et BFM TV avec, pour décrypter les gestes et les symboles de cette rencontre au sommet, l'analyse de Laurent Saïm, l'ancienne porte-parole du mouvement En Marche. Et quand ce n'est pas elle, ce sont les journalistes et les animateurs qui, plutôt que de l'info, d'écrire les faits, rien que les faits, ne font pas autre chose que de la communication, la com du président de la République. Et les deux fondateurs du site se désolent, rappelant que le maître des horloges, ainsi qu'aime à se définir Emmanuel Macron, a décidé de se mettre au-dessus des médias. Plus aucun off avec la presse, des journalistes filtrés, plus d'interviews le 14 juillet. Et mieux, La République En Marche, devenue parti présidentiel, entend désormais se constituer comme un média diffusant des images que n'auront pu tourner par elles-mêmes les différentes télévisions. Dès lors, le dossier de Libération prend tout son sens ce matin. Faut-il brûler les journalistes? C'est la question posée à la une. A priori, on serait tenté de répondre illico. Non, s'il vous plaît, ne nous brûlez pas. Mais tout en appelant cette profession précaire à se réinventer, le quotidien dresse la liste des insultes qui fleurissent sur les réseaux sociaux. Merdia, prestipute, laquais du pouvoir, journalope ou encore gauchias. Mais pourquoi tant de haine, s'interroge le journal. Élément de réponse sous la plume du chercheur Arnaud Mercier. Il explique que si la haine des médias ne date pas d'hier, elle est même très ancienne, comme la haine vis-à-vis du personnel politique, c'est ce même personnel, les élus politiques, qui l'attisent ces derniers temps. Lors de la dernière campagne, des candidats ont fait siffler la presse dans les meetings. Et pour ce professeur, ce sont les politiques qui ont donc libéré la parole des esprits agressifs et violents.
Allez, pour finir, un peu de douceur, Frédéric.
Douceur de la victoire. 4e victoire tricolore hier sur le Tour de France. Victoire de Warren Barguil et l'équipe applaudit ce matin. La vague bleue, vague qui n'a rien à voir avec la vague bleue marine. Enfin, un dossier très vacances dans Aujourd'hui le Parisien. La déconnexion, mode d'emploi ou comment apprendre à lâcher son téléphone ou son smartphone pendant l'été. Première étape, laissez-le en dehors de la chambre. Deuxième étape, ne l'emportez pas avec vous sur la plage. Troisième étape, se souvenir de la phrase de Michel Serres. Les nouvelles technologies nous condamnent à devenir intelligents. Et vous verrez, vous vous souviendrez toute votre vie du jour où vous êtes devenu intelligent, du jour où vous avez réussi à déconnecter.
Merci beaucoup Frédéric Pommier pour la revue de presse.